Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Le bruit du monde. Vous êtes trois, mais toi seul est déguisé. Chasuble chamois à ceinture de cuir brun, des touffes de laine descendent de tes oreilles et deux traits noirs soulignent tes yeux. Sur ton épaule délicate, la naissance de la clavicule et une peluche d'écureuil, sa queue greffée au crâne, intrigue. Tu es ce sorcier envoûtant, la créature sauvage qui nous sonde un par un. Ton regard dans le mien s'arrête. Soutien. Le monde s'agrandit, ce quelque chose qui nous relie, et tu poursuis. D'autres que moi pouffent, gênés. Infiniment lentement, tu lèves un bras, tes aisselles clairsemées. Je remarque sans le vouloir, traces de rasage récent, et tu caresses ton totem de la joue, ma vie pour être cet écureuil. Ta voix résonne, posée et puissante, qui nous raconte combien, depuis la nuit des temps, les étables, les bêtes et les champs, au soleil comme au couchant, disent le même récit, qui sommeille au creux de chaque enfant, qu'à force les adultes oublient, mais que tu te proposes, par cette nuit qui pourrait ne jamais finir, de révéler au fond de nos cœurs enfouis. Je prends conscience que tu parles en vers libre, ton phrasé musical, les syllabes chantonnent. Je t'imaginais réservé, mais ta voix sonne très affirmée. Est-ce que tu fais du théâtre? Tes yeux pétillent, nous sommes ces gamins pendus à tes lèvres. L'univers se déploie, tandis qu'on chemine innocent, curieux dans les sentiers, caresser les murets, écouter les ruisseaux et tendre les mains pour que la brise dise son murmure. Chaque indice est un poème, chaque étape une aventure. Yann est aux anges, et nous, des gosses. L'heure passe en rien, la nuit nous enveloppe et caresse. Et quand tu t'arrêtes, l'éternité. Le texte que je viens de lire est un extrait de « Ton absence », le nouveau roman de Guillaume Nail, publié au Rouergue chez Dos à Dos. On va en reparler tout à l'heure. Mais vous écoutez surtout l'émission « On lit quoi nous ?», la 42e du nom. Je suis avec Véro. Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Je suis avec Philippe, qui ne peut pas vous répondre, mais qui vous dit bonjour. Et voilà, nous allons aborder une nouvelle émission d'On lit quoi nous ?, la 42e déjà. Mmh. On vieillit.
Oh là dame.
Dans cette émission, évidemment, on va parler de livres, on va parler de nouveautés, on va parler de livres aussi un petit peu plus anciens, on va parler d'albums, de romans, de documentaires...
De plein de choses, de plein de livres et de musique un petit peu.
Et puis on va écouter de la musique aussi, comme d'habitude. Il y aura évidemment un album mis en avant. Cette fois-ci, vous allez avoir une petite surprise. C'est un album qui n'est pas récent. Il date de 2011. C'est un album studio d'un artiste qu'on connaît un petit peu, qui s'appelle... Catherine. Et j'ai choisi cet album parce qu'il vraiment il me fait toujours rire. Et nous allons commencer tout de suite avec le morceau Vive le douanier Rousseau.
Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber. On va embarquer pour un pays qui va vous enchanter. Vous embéguinez, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux, un spectacle permanent. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Y'a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Y'a des poissons tropicaux, plein de piquants sur le dos. Oh oh, oh oh, oh oh. La nuit tombée, si vous le voulez, on ira caneter sous les palais du pied. Aucun danger, on peut se baigner. Là-bas les crocodiles sont bien intentionnés. Au clair de la lune, dans la forêt endormie, des ombres félines se dessinent. une part magique comme dans les, comme dans les, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des soleils de feu cachés dans les roseaux, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des petits singes amoureux qui jouent les Roméo. Oh 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 oh. C'est un vrai paradis. C'est un vrai paradis. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des poissons tropicaux plein de piquants sur le dos. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des soleils de feu cachés dans les roseaux. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau.
Eh oui, mais c'est pas fini.
Vive la douanier Rousseau !
Je crois que c'est pas
vive
fini.
Vive la douanier Rousseau !
J'adore !
Voilà, voilà. Quelle bonne façon de commencer notre émission de manière du grand n'importe quoi à la Catherine. Hein. Donc nous sommes en 2011. Catherine sort son 11e album studio quand même. Et en fait, c'est la compilation, c'est 52 titres qu'il va faire, 52 reprises qu'il a enregistrées l'année précédente, en 2010, avec le groupe de jazz Francis et ses peintres, qui est un vrai groupe de jazz, hein, avec notamment composé autour du saxophoniste François Ripoche et un quatuor. Et donc, une fois par semaine, le lundi, il va reprendre une chanson française. Alors, on a vraiment toutes les chansons françaises. Ça va de Carlos à Aline.
Avec un autre tempo.
À la manière de Catherine.
Voilà.
Voilà. Soit une ambiance jazz, soit une ambiance délirante. Et comme ça, il va s'amuser pendant une année. Et cet album, donc, c'est un triple album, 52 chansons de reprise.
Ça s'achète.
À la Catherine.
Bah, c'était pas que sur le site.
Non, il y a un vrai disque qui existe. Alors, je ne sais pas s'il est encore commercialisé, mais j'imagine que c'est Catherine quand même.
Bon, ouais.
Voilà. Donc, on en écoutera deux autres morceaux que j'ai choisis. Vous allez voir, spéciale dédicace un peu, parce qu'on est quand même sur une émission sur la jeunesse. Donc, vous verrez, ça sera la surprise. Allez, on continue, on commence cette émission avec, comme d'habitude, l'actualité.
Rature de la jeunesse.
Voilà. Toujours le jingle magnifique. Donc, cette actualité, eh bien, ces derniers jours, c'est quand même l'annonce des prix sorcières, hein, parce que c'est vrai qu'on les attend toujours. Les prix sorcières, donc prix sorcières qui ont maintenant plus de 30 ans, qui sont le fait de deux associations, l'association des librairies spécialisées jeunesse, les librairies sorcières comme on les appelle, et puis l'ABF, l'association des bibliothécaires de France. Tout à fait. Et c'est vrai que d'année en année, en fait, on les attend. Pourquoi ? Parce que les choix sont généralement très pertinents.
Comme les nôtres.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a six remises de prix dans les prix sorcières. Et bizarrement, nous comptions tout à l'heure avec Véro et nous en avons présenté quand même 5 sur 6.
Oui, c'est pas mal.
On n'était pas
franchement,
mal.
Franchement, c'est pas mal. Ouais.
Alors, cette année, en fait, ça a été une année assez particulière puisqu'en fait, sur 6 prix, il n'y a que 3 éditions qui sont couronnées. Parce qu'il y a les éditions
alors,
ont
sur
eu 2
prix, il n'y a que 3 éditions couronnées.
Ça veut dire combien d'éditions ont-ils eu des prix ? En gros, 3. Les Fonds Mérus ont eu 2 prix.
Ah.
L'école de Vézières
a
eu
2
prix.
Ah oui, d'accord, ils se font du groupé.
Et Maison Georges a eu 2 prix.
C'est des prix de
groupe. Exactement.
C'est nul.
Alors, le Carrément Beaumini, hop, c'est la nuit de la fête foraine de Gédéon Sterrer et Maria Chiara Di Giorgio au Fourmi Rouge. Si vous vous souvenez, c'est l'album à l'italienne, sans texte. qui est absolument magnifique. Oui, les beau, animaux qui reprennent la place de la fête foraine, qui vont vivre.
Ah oui, oui, c'est magnifique, je me le suis acheté.
Voilà, donc ça c'est le Carrément Beau Mini, et on en avait parlé évidemment à cette émission. Le Carrément Beau Maxi, c'est Le plus bel été du monde de Delphine Perret, aux éditions Les Fourmis Rouges également. Nous en avions parlé également, nous adorons ici le travail de Delphine Perret.
Et des Fourmis Rouges.
Et Le plus bel été du monde, c'était, vous savez, elle revenait sur des souvenirs d'enfance, quelque chose de très contemplatif avec la nature, avec la maison de ses vacances. Enfin voilà, c'était très très beau. Le carrément passionnant mini, c'est Lily sous la mer de Thomas Lavachéry. Ça, c'est à l'École des loisirs. Et c'est vraiment un roman assez particulier qui se présente comme un album, format presque cartonné.
Ouais.
Et puis, c'est vraiment un petit bijou d'humour, mais aussi d'aventure. Parce qu'on va suivre en fait une jeune fille issue d'une famille scientifique qui va partir en expédition. C'est vraiment très 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 chouette. Le carrément passionnant Maxi, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco, que vous aviez présenté, Véro.
Pas moi.
Non, c'est moi. Bon,
c'est vous, monsieur Simon. Ça faisait partie des prix Temelier.
Texte aussi sélectionné, effectivement, pour le prix Temelier. Texte qui a aussi gagné moult prix, puisqu'il était en sélection dans plein de prix.
C'est la princesse Flore Vesco, au petit pois.
On ne la présente pas, effectivement. C'est elle part de la princesse au petit pois, et puis après elle va beaucoup plus loin.
Elle met encore plus d'oreillers.
Voilà, un roman vraiment magnifique, et puis assez peu commun, puisque c'est inspirant comme ça des contes. Le carrément sorcière fiction, c'est Il était une forme de Gazaole Cruciforme.
C'est alors là.
Espèce de livre complètement.
Il n'y a pas de mots. Oui.
D'ailleurs, je pense que Cruciforme, ça fait deux livres et deux prix sorcières, en fait, puisqu'elle avait eu le prix avec Colorama.
Elle.
Oui, tout à fait.
C'est pas un tournevis.
Donc c'est plutôt non. Et puis je suis content parce que ça récompense une maison qu'on aime bien, c'est la maison Georges. La revue Georges. Voilà. Et puis la maison Georges, elle a eu un deuxième prix. Et ça, je suis assez content aussi. Ce livre s'appelle Yao Japon d'Eva Ofredo. Eva Ofredo, on aime bien ce qu'elle fait, une illustratrice qu'on aime beaucoup. Et Yao Japon, c'était une sorte de livre un peu documentaire sur à la fois les métiers, la vie quotidienne au Japon, parler objets, par les métiers, et c'est un très très beau livre aussi, Omicromie. En tout cas, voilà, c'est 6 beaux livres, donc vous pouvez y aller, c'est des livres vraiment à découvrir. Cette sélection, elle est magique, donc allez voir dans les bibliothèques, allez voir dans les librairies sorcières, vous trouverez cette sélection.
Super.
On y va, nous ?
On y va.
Pour la nouveauté.
C'est parti.
Allez, on va commencer, comme d'habitude, pour les plus jeunes, et c'est moi qui garde la main, avec cet album qui s'appelle Le Gentil Crocodile. C'est un livre écrit et dessiné par Léo Timmers. Léo Timmers, ça fait partie des grands noms quand même de l'album jeunesse. Alors Léo Timmers, moi j'ai longtemps pensé qu'il était hollandais, mais pas du tout.
J'ai jamais pensé qu'il était hollandais, moi.
Ben voilà, comme quoi. Et parce qu'il écrit en néerlandais. Et en fait, il est belge, en fait, tout simplement.
Donc, en flamand, quoi.
Voilà, il écrit en flamand, tout simplement. Donc c'est effectivement un auteur belge, né en 1970, et puis qui travaille maintenant depuis quasiment les années 2000 en tant qu'auteur illustrateur d'albums pour enfants. Il y a pas mal d'enfants qui le connaissent par Le Garage de Gustave, qui est souvent utilisé comme méthode de lecture. Donc il y a beaucoup Mais c'est avant tout un illustrateur et un raconteur d'histoire. Dans ce nouvel album publié aux éditions Cambourakis, comme une partie de son œuvre en fait, on va retrouver ce crocodile. Donc c'est un livre en randonnée. En fait, on a chaque fois un petit personnage qui arrive sur la page de droite. Première page par exemple, c'est la souris qui fait « Allez, gentil crocodile !» Hop, on a le serpent évidemment qui arrive pour bouffer la souris, et le crocodile, il rugit tel un lion, et hop, il fait peur au serpent. Ensuite, on a le petit marcassin qui arrive. Allez, gentil crocodile ! Qui se fait poursuivre par la hyène. Évidemment, le crocodile. Hop, et il sauve. Et, voilà. Et à chaque fois, effectivement, l'animal qui est sauvé va monter sur le dos du crocodile. Donc, on a la souris, on a le marcassin, on a la gazelle qui va échapper au guépard. Et puis, on a le rhinocéros qui arrive, qui est pourchassé par le lion. Sauf que le pauvre crocodile, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, le rhinocéros monte sur le crocodile. Il se fait complètement écraser. Donc, là, on pense que c'est la fin du crocodile et de ses amis. Puisque le lion approche quand même avec un peu de manière très inquiétante, en faisant aussi, parce que lui aussi,
ça fait peur. Hein.
Sauf qu'on va entendre un gros et qui sait, ce sont les quatre personnages qui ont été sauvés, évidemment,
ensemble,
par le gentil crocodile. Tout à fait. Ensemble, on est plus forts. Et c'est exactement une phrase du livre.
Ah bon, non.
Véro, j'ai l'impression que vous êtes Léo Timmers, en fait. Voilà,
c'est ça. Vous m'avez percé à jour.
Et évidemment, la chute est assez rigolote, je vous laisserai la découvrir. En tout cas, c'est un livre plein d'humour. On retrouve le dessin vraiment somptueux de Léo Timmers, qui l'adapte vraiment pour les tout-petits. Donc voilà, c'était un joli coup de cœur. Et puis l'occasion de saluer cet éditeur qu'on aime bien aussi, qui s'appelle Cambourakis. Vous vouliez nous parler d'un livre un petit peu sérieux.
Eh bien voilà, un petit peu sérieux, et j'ai trouvé cette histoire très intéressante. Donc ça s'appelle « Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup » d'Amélie Javot et Annick Masson chez Mijad. Je l'avais mis de côté depuis un moment là, parce que cette histoire, elle montre comment la méchanceté subie nous rend méchants à notre tour et qu'on peut basculer très facilement de l'état de victime à celui de bourreau. Charlotte est harcelée dans la cour de l'école par Agnès, une grande bringue suivie de sa meuf. Donc pour Charlotte, ce sont des loups. Elle voit aussi cette bande brutaliser Siméon, un petit garçon un peu chétif, et elle se met aussi à lui chercher des noises pour appartenir à la meute, et que Agnès la laisse enfin tranquille. Mais elle se sent très mal, et avec ses parents, elle arrive à dépasser cette situation très douloureuse en s'alliant avec Siméon et en ignorant, elle s'est mise à jouer avec Siméon et à faire alliance, oui, et en ignorant complètement les meutes de loups qui rôdent autour d'eux. Donc les illustrations sont très expressives et permettent aux enfants de s'identifier très facilement. Le texte est direct, la métaphore du loup très très explicite sur comment les plus forts dévorent les plus faibles, hein, on va dire ça comme ça, mais comment les plus faibles, en s'alliant toujours, hein, peuvent aussi arriver à résister. Et le thème de l'harceleur, c'est très judicieusement traité. Je trouve que c'est assez original de voir ce basculement chez la personne, les doutes, et comment la souffrance morale peut rendre agressif aussi, et aller vers le plus faible aussi pour devenir un loup soi-même et réussir à en avoir conscience et sortir de cet état. Je trouve que c'est très bien montré.
Ouais, et puis le duo d'autrices aussi marche vraiment bien. C'est deux autrices qui travaillent depuis maintenant plusieurs albums ensemble aux éditions Mijad, et Annick Masson au dessin et Amélie Javot au texte. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une complicité entre les deux, qui fait que ça, il y a une complémentarité qui est vraiment très chouette.
Non, c'est remarquable, je trouve, au niveau du traitement du sujet.
Un sujet qui est finalement assez peu traité dans ce sens-là.
Dans ce sens-là.
Voilà.
Dans ce sens-là.
On commence à avoir des livres, en fait.
L'homme est un loup pour l'homme.
Voilà, c'est ça. Bien, moi, l'homme n'est pas du tout un loup pour l'homme.
Oui, c'est
un peu un petit moment de mignonnerie, comme dirait Catherine. Hein, parce
mignonitude. Il a son expo.
Mignonnerie. Mmh. Voilà. Avec ce Petit Fan. Le Petit Fan, c'est un livre écrit par Kelly George et illustré par Ellie Mackay, publié à l'École des loisirs. Et c'est vraiment un joli moment de tendresse qu'on vous propose avec le Petit Fan. En fait, on va suivre l'histoire d'une petite fille. Cette petite fille, elle est un peu déçue, elle est un peu en colère, parce qu'elle a l'impression de rater toutes les choses importantes. Par exemple, quand papa et maman et sa grande sœur sont en train d'éteindre le linge, ils vont apercevoir une biche. Et elle, en fait, elle était en train de se préparer, en train de s'habiller toute seule, donc elle a raté la biche. Donc, quand ses parents lui apprennent, alors, elle est très déçue. Déjà qu'elle avait raté les étoiles filantes parce qu'elle dormait, la nuit. Elle a raté la première pomme parce qu'elle était trop petite, c'est sa sœur qui l'a chopée. Enfin, voilà. Donc, elle est vraiment un petit peu déçue. Donc, elle va décider de se rebeller, d'aller contre ça et de partir à la recherche de cette biche. Donc, elle met ses jolies chaussures et puis elle part chercher la biche. Là, elle va entendre plein de petits bruits, et à chaque fois, évidemment, ce n'est pas la biche, évidemment, c'est le bruit d'une petite grenouille, c'est le bruit du chien du voisin qui vient la voir, c'est le bruit de l'oiseau qui est perché sur les branches. C'est le bruit de l'écureuil qui est dans ses arbres. Et effectivement, à chaque fois, elle voit plein de choses. Bon, elle ne désespère pas, elle est déjà contente de sa journée, et elle se pose sur l'herbe pour se reposer. Elle a pris un petit sucre pour la biche, quand même, pour la tirer. Sauf qu'elle est près presque de s'endormir, tout d'un coup, elle entend un bruit. Elle voit quelque chose derrière les buissons.
Oh là là.
Mais ce n'est pas la biche.
Oh là là. Je me mets à sa place.
C'est le fan. C'est le bébé de la biche. Le fan qui est en train de dormir. Et évidemment, elle ne le réveille pas. Mais à un moment donné, le fan lève ses yeux et voit la petite fille. Ils sont un peu dans la même situation, l'un et l'autre. Ils se disent bonjour avec les yeux. Et puis le fan va repartir vers sa maman. Alors la petite fille, elle va faire pareil. Elle va repartir vers sa maman. Et quand sa mère va lui dire « Alors, tu as vu la biche ?»
Non. Encore mieux.
J'ai vu le petit de la biche. Et c'est vraiment une histoire tout en tendresse. Voilà. On a envie d'être avec elle. Les couleurs sont très belles, très lumineuses.
Ces moments de découverte comme ça, très fugaces dans les forêts. Bon, j'ai jamais vu de fond, moi. Mais rien que voir un chevreuil, c'est magnifique.
Ouais, et puis j'ai beaucoup aimé l'illustration qui est un mélange de dessin, de peinture et de papier découpé, en fait.
Et
ça donne un petit relief au décor.
Il y a un petit air de Bambi, quand même.
Si vous,
là,
alors, en fait, dès qu'il y a un fan, en fait.
Ah oui. oui, c'est comme ça.
Que c'est un peu un Bambi, ça doit quand être même. Ça. Hein, ouais. Je pense que c'est plus de ça.
Ils ont le même costume.
Voilà, c'est ça. Ils sont déguisés de la même façon. En tout cas, ce très bel album, Le Petit Fan de Khalid George et Ellie MacKay à l'école des... Ah, au fait, je le répète là maintenant parce que souvent on dit vite les noms, les auteurs. Les...
Oui,
mais si vous allez sur le site de l'autre radio, vous aurez tout... Enfin, sur le podcast de l'émission, voilà. Vous avez tous les titres qui sont... Qui, voilà, donc pas besoin de noter sur votre bout de papier.
Non, vous pouvez lâcher, vous allonger, tranquille. Trucs, voilà.
Je garde la main pour vous présenter deux albums qui font écho, en fait, même s'ils sont complètement différents. C'est deux albums presque sans texte, mais super bien. l'idée étant qu'on n'est pas dans des albums sans texte, on n'est pas non plus dans une narration... Parce qu'on est presque proche d'un documentaire dans les deux cas. Ça parle de deux choses complètement différentes, mais ils sont tous les deux aussi bien l'un que l'autre. Le premier, c'est Une journée au Japon de Sandrine Thomen, publié chez Piquet Jeunesse. Sandrine Thomen, on connaît son travail. Elle est très attirée par l'Asie. Hein. Elle a fait plusieurs livres sur le Japon, notamment aux éditions Piquet Jeunesse, dont c'est la spécialité.
Ben oui,
et là, en fait, elle va nous emmener dans un grand voyage à travers le Japon. Le Japon dans son quotidien. On va suivre en fait un parcours, en fait, une voiture, et dans cette voiture, il y a une maman qui amène sa fille à l'école, et on va suivre finalement la journée de cette petite fille avec, à chaque fois, une double page, sans texte, juste un titre. Et ce titre, bah, c'est Les Rizières, ça c'est quand ils partent le matin de leur maison. C'est... là, il n'y a rien, en fait, sur cette double page, voilà, je pensais qu'il y en avait. C'est l'école, c'est quand elle arrive à l'école, voilà. Alors, ce qui est super, c'est qu'en plus, on a les idéogrammes japonais.
C'est bilingue.
C'est la sortie scolaire, c'est un combat d'apprenti sumo, et c'est, voilà... Une douzaine de tableaux en fait de la vie quotidienne au Japon. Les illustrations sont vraiment très très belles. Il y a ce petit
les chats.
Ces petits chats, c'est la montagne sacrée en fait. C'est la montée par les escaliers qui
c'est pas des vrais chats alors.
Alors c'est des sculptures.
Ah
c'est
d'accord.
Des sculptures. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment admirable. C'est une belle entrée dans la culture japonaise, un peu silencieuse. Ça fait du bien le silence, on a l'impression d'être au Japon. Et le deuxième livre qui est un petit peu dans le même esprit, il s'appelle Marcel et les cigognes de Myriam Raka et Charline Colette, publié au Fourmis Rouge. Et c'est pareil, c'est un livre presque sans texte, mais avec une petite narration. En fait, ce livre, c'est aussi un livre de l'année, puisqu'en fait, chaque double page est une grande illustration de Charline Colette, avec, qui représente un mois de l'année.
D'accord.
Donc ça commence par janvier, parce que c'est souvent comme ça que ça commence.
Là, on est en France.
Alors, on est en France. On va suivre migration des cigognes.
Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui, forcément.
Et donc, les cigognes, on va voir toute leur année passée. En même temps qu'on voit aussi Marcel, hein, la petite fille. Enfin, la jeune fille.
Mais elle a une maison sur roulette.
Bah, c'est pour ça, parce qu'elle suit la cigogne.
Ah voilà. Là, la chance.
Et donc, on va suivre ces 12 mois, parce qu'il y a 12 mois dans l'année, avec la vie des cigognes et la vie de Marcel. Alors, une petite surprise, parce qu'évidemment, Marcel, elle a une petite naissance qui va arriver.
C'est trop comme, beau, les dessins.
Comme la cigogne,
on dirait des frais.
Voilà, comme la cigogne va avoir.
Des bibis.
Ce qui fait que les deux histoires entre Marcel et les cigognes se répondent l'une l'autre. Et on va les suivre comme ça dans leur quotidien. Et effectivement, la maison roulante ne roule plus, mais c'est là où niche en fait la cigogne. Et le plaisir, c'est de retrouver évidemment l'année d'après les cigognes qui vont revenir.
C'est incroyable.
C'est un livre très très beau. Moi, j'adore le travail de Charline Colette. Elle nous avait vraiment ravis avec son premier album qui s'appelait Au bois. Je sais pas si vous vous souvenez.
Ça y est. Voilà. Je cherchais.
Qu'on avait présenté ici, hein, qui était une succession de petites histoires. Et elle a aussi signé depuis L'âge de la forêt à La Joie de lire, qui est très très beau également. En tout cas, voilà, moi c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Et puis le travail de Myriam Raka, qui est réalisatrice de documentaires à la base, c'est elle qui a conçu cette histoire.
C'est la première fois que je vois une jaquette chez les Fourmis Rouges.
Alors il y a une jaquette, vous savez pourquoi ? En fait, ce n'est pas une jaquette.
C'est une carte.
C'est une carte.
C'est un itinéraire.
Quand on enlève la jaquette, on a effectivement la carte de la migration des cigognes.
Oh là là, mais quel beau
livre.
Ce
qui fait qu'on va suivre dans le détail en fait ce que vont vivre les cigognes.
C'est un livre magnifique.
Ah non, mais il est trop beau. Ouais. Je vous l'avais dit. Je l'avais prévenu.
Bah oui.
J'avais dit, c'était, je présente des livres presque sans texte, mais trop beaux. Eh bien voilà. Allez, on continue. Et vous avez envie de nous faire revisiter les contes, je crois, avec deux livres qui sont sortis.
Grâce à Steven. Alors, vous allez m'aider. Hein, Guarnaccia, on dit Guarnaccia.
Guarnaccia, je sais pas.
Guarnaccia. Bon, voilà.
On va le dire comme ça.
Voilà. Les habits neufs de l'empereur, donc chez Helium. Donc, après les trois petits cochons, je sais pas, ça date déjà un petit peu, qui mettaient en scène tous les styles d'architecture. C'est ça que j'adore, parce que c'est à la fois une sorte
2010,
de documentaire.
2010,
oui. Ouais. Ouais. Contemporaine, architecture contemporaine. Et Cendrillon, qui nous parlait de mode du 20e siècle. Voici le conte d'Andersen, réinventé par Steven Guarnaccia, je vais y arriver. Et cette fois-ci, c'est aussi la mode qui est représentée avec surtout les accessoires, donc des pages de garde qui nous permettent de nous y retrouver, car les différents modèles, ils sont nommés avec leur date. Et c'est déjà un jeu en soi de retrouver. Alors, j'ai pas dit, il parle des habits neufs, il revisite un petit peu les habits neufs de l'empereur, qui est ce conte où deux soi-disant tailleurs arrivent dans le royaume et promettent au roi un costume absolument divin, magnifique, sublime, mais que seules les personnes intelligentes peuvent voir. Et au fur et à mesure de la conception du costume, le roi envoie ses ministres, il envoie ses sbires pour aller voir l'avancée du costume. Et il ne voit rien du tout, sauf qu'il n'ose pas dire qu'il ne voit rien, puisqu'il pense qu'on va les prendre pour des benêts. Et donc ils disent au roi, de façon dithyrambique, c'est magnifique, c'est superbe et tout. Et le roi finit par défiler sans costume finalement, en caleçon, dans cette version. Normalement, il est tout nu aussi, d'après Andersen. Il y a juste... Mais je trouve que la symbolique est tellement forte, où tous ces sujets se courbent et s'extasient devant le soi-disant costume. Et un petit garçon dit, mais le roi est en caleçon, ou le roi est tout nu, selon la version. Et là, donc, Monsieur Guarnaccia, je vais y arriver, a choisi, justement, j'ai vu qu'il était, c'est un professeur illustrateur et designer aussi, donc il va utiliser tous les objets de design, et là, sur la mode, qui ont marqué le 20e siècle particulièrement, pour illustrer son conte. Et c'est extraordinaire, on va voir une vieille machine à coudre, ancestrale, on va dire, la grand-mère des machines à coudre. C'est déjà un jeu en soi, en plus, de retrouver ces petites pépites, donc tout au long de l'histoire. En plus, le conte est un peu moins moraliste que le conte original. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est assez léger. Voilà, je vous passe le livre.
Je demande à l'heure de me le passer.
Je n'ose plus tourner les pages.
J'avais oublié.
Donc l'intrigue est... Donc voilà, là, je vous ai expliqué l'intrigue. Mais ce qui est remarquable ici, c'est la modernité universelle des illustrations. Et certains détails, pas tous, moi je ne connaissais pas tout, mais parle à tout le monde. Tout le monde a déjà vu ce style de cravate une fois dans sa vie, ou ce style de chaussure. Et après, on va les retrouver dans l'illustration, c'est vraiment utilisé comme décor. J'adore ces procédés de narration aussi, qu'il a utilisé dans Cendrillon et dans Les Trois Petits Cochons. Et j'attends d'autres choses de lui, cette façon de revisiter les contes qui est... c'est un plus vraiment très très chouette
très
contemporain en plus. Enfin, oui, voilà, c'est
ce que je vérifiais en reprenant l'album dans les mains, c'était justement s'il y avait, et c'est sur les pages de garde en fait,
oui,
où on retrouve
ce que je disais, c'est pas les mêmes, il y a les premiers
on retrouve les origines et ceux qui l'ont porté aussi, je vois qu'il y a Elton,
alors parfois il donne les chaussures
le caleçon de Prince.
Voilà, mais c'est le caleçon de Prince, j'ai pas eu le temps de regarder que porte le roi.
Voilà.
Ouais, c'est quand même pas rien.
C'est quand même pas mal.
Ouais.
Même s'il a que ça, déjà, c'est pas si mal.
Donc ça fait plein de possibilités de découverte en redécouvrant un conte classique. Quoi. Voilà.
Ouais, et puis du coup, je vous invite à revisiter Les Trois Petits Cochons, parce que là, c'était vraiment l'architecture.
L'architecture, voilà. C'était chouette.
Et puis le
avec des maisons
aussi.
Incroyables, quoi, évidemment. C'est Les Trois Petits Cochons, quand
tout
même.
Tout à fait. Et vous nous avez aussi dégoté un petit roman.
Oui. Ah oui. La véritable histoire de Blanche-Neige qui n'a pas croqué la pomme.
Donc on quitte Andersen, hop,
on
part.
On quitte Andersen et on passe chez Blanche-Neige, de Côme d'Ogno chez Amatera. Je parle pas assez souvent d'Amatera parce que souvent je m'arrête dessus. Alors, nous avons une reine qui n'hésite pas à mettre les petits plats dans les grands pour séduire Blanche-Neige à l'aide de différents mets, tous plus raffinés les uns que les autres. Elle se donne un mal de chien à préparer un ragoût de cœur de biche, du gigot de biche caramélisé à l'échalote nouvelle, du rôti de biche en croûte de poivre des montagnes barbues et ses pommes de terre grenaille au thym, du filet de biche à point avec sa sauce crème de morille et sa gelée de cassis. Bon, le tout assaisonné de morora. Forcément. Hein. Donc son but, c'est quand même de trucider Blanche-Neige. Hein. Ça n'a pas changé. Donc nous avons aussi, de l'autre côté, Blanche-Neige, qui refuse très très
courtoisement les plats, à chaque fois sous prétexte de souffrance animale, de toxicité des produits, de commerce équitable et autres lubies modernes. Très pénible, la Blanche-Neige. Elle est pénible, franchement. Résultat, la reine revient toujours bredouille en fomentant de nouveaux plans pour piéger sa bru. Un petit régal de romans, de contes détournés, de merveilles d'humour et de peps en plus, ça a vraiment la pêche. Malgré le tragique de la situation, on se délecte, c'est qu'à de le dire, à chaque page des situations cocasses entre la reine et Blanche-Neige. Donc il y a des valeurs féministes dans ce livre qui sont portées haut. Et la situation est bien inversée. Fini les princesses et reines belles et désœuvrées. Rien de tel pour un être humain que de se réaliser en travaillant dur. Et puis, bonne nouvelle, Blanche-Neige n'a plus besoin de prince charmant. Bien au contraire, je vous laisse découvrir comment.
Quand même. De toute façon, tous ces contes, il faut les dépoussiérer un petit peu. Donc, on a besoin
oui,
de...
Oui. Et là, il déménage. Vraiment, il déménage.
Ouais.
C'est très drôle.
Et c'est très contemporain.
Complètement.
Eh bien, ça donne très envie, tout cela. Ça donnerait presque envie de relire des contes, en fait.
Ah bah, il faut.
Oui,
ah ouais,
rigole,
non, rigole, on a des gens qui veillent à nous en resservir.
Et comme Dogno, en fait, c'est une autrice qui habite Strasbourg. Qui écrit son deuxième texte.
Oui, j'ai déjà vu son nom passer.
Ça doit être son deuxième texte. Illustration, parce qu'il y a pas mal... Il y a des
c'est elle qui...
Non, c'est Marion Javot.
Ouais. Alors là, c'est pas bien. J'ai voulu regarder, j'ai pas été fouillée sur le livre. Il n'y a pas de mention, alors ça doit être à la fin.
Peut-être juste sur la couverture, je sais pas.
Ouais, non, il n'y a rien.
Voilà.
C'est pas bien.
Bon, allez, on va continuer.
Là, elle est toute petite.
Ah, voilà, Marion, c'est
petite,
bien ça. J'aime bien l'illustration de couverture, c'est
oui,
pour
oui,
ça.
Même toutes.
Voilà.
Non, j'ai n'importe quoi là. Oui, j'ai n'importe quoi. J'ai rêvé. Je les ai imaginés.
Voilà. Bon. On continue avec un album. Alors, vous allez voir un album assez particulier, plutôt un album pour les grands. En tout cas, un album très poétique qui mérite une petite lecture et qui mérite du coup un petit générique coup de cœur. Coup de cœur s'appelle « Le jour où j'ai grandi », un album écrit par Madeleine Roth et illustré par Lucille Michieli. Ce matin, Louve n'a pas envie de se lever. On est le 31 décembre. Elle s'est réveillée tôt, mais elle a regardé longtemps le vent dans l'arbre en face. Elle a beau trouver ça un peu stupide, cette idée de résolution, elle a soudain bien envie qu'à partir de demain, tout change. Elle a surtout envie de le décider, elle, et de tout changer, elle. Elle entend sa mère qui l'appelle de la cuisine. Il y a des odeurs de pain chaud. Quand elle se lève, la lumière du jour est déjà différente. Elle se serre contre le corps de sa mère. Elle dit « Maman, je vais marcher un peu ». Et puis elle emporte un bout de pain, du papier, des enveloppes et un stylo. Louve se met en marche. Elle réfléchit mieux en marchant. C'est sa forêt. Louve y a grandi. Quand elle était petite, toute petite, sa mère ne voulait jamais qu'elle s'éloigne. Pas plus loin que l'arbre. Pas plus loin que la rivière. Pas plus loin que les rochers. Louve faisait chaque jour un pas de plus. Elle rêvait d'explorer, de sentir, de toucher. De sortir à l'aube quand tout est silence, caresser l'herbe mouillée de rosée, ou d'avancer dans la nuit quand une branche d'arbre craque et résonne, quand on retient son souffle pour ne rien déranger. Louve, souvent, elle aurait voulu que quelqu'un décide à sa place, lui dise quoi faire des deux petits cœurs opposés qui semblaient s'affronter au dedans d'elle. Celui qui disait « saute, vole, fonce !» et l'autre plus peureux ou plus sage qui chuchotait « respire ». Reste là, dors. C'était fou ça, d'être une et à la fois deux. Dans la même journée, se dire « j'y vais, plus loin que l'arbre, plus loin que la rivière, les rochers » et ne faire qu'un pas ou deux et revenir. Pas tellement parce qu'elle avait peur, mais parce qu'il y avait comme un centre de gravité au-delà duquel Louve, au lieu de s'agrandir, de s'élever, semblait se craqueler. Allez, hop, Louvre marche. Cette année, il fait incroyablement doux. C'est un hiver sans neige. Il y a même du mimosa. Louve sait maintenant où elle va, à l'orée de la forêt. Il y a un arbre, un cerisier. On est le 31 décembre et Louve a quelque chose à lui dire. Quand elle marche dans la forêt, Louve est avec elle, rien qu'avec elle. Elle est attentive aux moindres détails, la mousse sur les pierres, la couleur des feuilles qui a changé. Dans quelques heures, ce sera l'année suivante. Louve, elle a quelque chose au fond d'elle-même qu'elle veut donner. Commencer demain plus légère, un peu différente. Elle ralentit le pas. La forêt, c'est son territoire, sa maison. L'arbre, son confident. Louve va partir. Elle va quitter la forêt. Elle va quitter sa maison, la maison où elle a grandi. Elle sent que c'est le moment, que c'est le bon moment pour elle. Et elle va lui dire à l'arbre. Elle va lui dire, tu vois, j'ai préparé mes affaires. J'emporte le jour où je suis tombé à l'eau parce que je poussais ce petit bateau et maman qui me disait, tu vas tomber, et moi qui suis tombé. Tous mes petits trésors du jour, la musique de la neige quand elle descend, les bocs des châtaignes, les primes verts qui annoncent le printemps, les cadres avec les photos sur l'étagère près du lit. Qui décide de qui vous êtes? Longtemps, cette question avait tourneboulé Louve. Les yeux, la bouche, ce à quoi on ressemble, ça, Louve savait à peu près. Mais ce qui vous fait vous, ce qui fait de vous une personne, la couleur de votre cœur, ce qui s'agite à l'intérieur de vous. À un moment donné, on se reconnaît, on s'accepte, on a compris. Oui, on pleure devant de petites choses. Oui, on n'aime pas le goût de la menthe, on fait des grimaces. Oui, on a ce petit rire bête là parfois, mais c'est comme ça, c'est notre rire après tout. Louve s'est arrêtée près de la rivière. Elle a envie de toucher l'eau froide, de faire durer le jour aussi, de le prendre dans ses mains, de le garder dans ses mains. Près de la rivière, hormis le bruit de l'eau, tout est silencieux. Louve peut s'entendre respirer. Louve, c'est une silencieuse. Ça fait partie des choses qu'elle accepte d'elle, qu'elle n'a pas envie de changer. Le bruit, le bavardage, Louve, elle a toujours détesté. Là, au moment où elle pense ça, un oiseau vient près d'elle, s'approche doucement, sautillant. De petits bonds en petits bonds, parfois avançant, parfois reculant. Un oiseau au col bleu qui vient voir Louve et toucher son silence. Louve, c'est une silencieuse et une solitaire. Ça prend parfois toute une vie de comprendre qu'on va vivre avec soi, qu'on ne peut pas poser un peu de soi comme une veste au vestiaire. Eh bien Louve, ce 31 décembre, elle en est là de sa vie. Assise près de la rivière, le silence autour, l'oiseau bleu dont chaque bond dit « Je suis là, je t'ai vu, je viens, je pars, je joue ». Louve est bien, sereine, à la fin de quelque chose et au début d'autre chose. Elle sort le papier et le stylo, écrit trois lettres, l'une à sa mère, l'une à son père, qui est mort depuis 4 ans, la dernière à sa sœur qui est partie de la maison peu après. Celle pour son père, elle l'enterrera sous l'arbre. C'est Nour qui lui a dit « Écris, et si tu ne peux pas donner ta lettre, enterre-la. Ce qui compte, c'est que tu écrives, que tu ne restes pas avec tes mots dans ton ventre. » À son père, Louve écrit qu'elle est heureuse, qu'il lui manque, qu'elle pense à lui chaque jour, qu'elle pense qu'il la voit d'où il est, et qu'il veille sur elle, et qu'il est fier d'elle. À sa sœur, Louve lui dit aussi qu'elle lui manque, qu'elle l'a toujours admirée, qu'elle ne comprend pas très bien pourquoi elle s'éloigne comme ça depuis quelques années, mais elle lui dit que son amour pour elle est le même, fort et démesuré. Louve écrit lentement et soigneusement. L'oiseau est toujours là, il tourne autour d'elle. Elle pense que c'est peut-être son père qui lui dit bonjour. Elle aime penser ça, que son père devient un oiseau parfois. Elle respire aussi lentement avant de commencer la lettre à sa mère. Elle veut trouver les mots justes, lui dire qu'elle s'en va, et qu'elle sait qu'elle la laisse seule, seule dans la forêt, seule dans cette maison. Depuis quelques années, c'est un peu plus difficile entre toutes les deux. Elle bute parfois sur des silences ou des paroles qu'elle regrette. Évidemment, elle s'aime, mais ne savent toujours comment se le dire. Louve écrit « Maman, le jour est venu où je pars, parce que j'ai trouvé l'envie et la force de partir, et c'est un peu beaucoup grâce à toi. » Louve pleure, de petites larmes qui ne font aucun bruit. Elle pleure dans un sourire. Elle a compris ça, qu'elle a grandi pour arriver à ce jour-là, qu'elle a grandi grâce à l'amour. Et l'amour, il reste là, qu'on parte, qu'on ne parte pas. Louve, c'est une silencieuse, une solitaire et une sensible. Elle pense en riant que ça fait beaucoup. Sensible, ça veut dire qu'elle pleure souvent. Pas de gros sanglots, mais de petites larmes, et souvent pour des choses qui sont de la joie, qui la touchent, comme une main la toucherait. Louve, elle sent et ressent. Elle n'a pas de bouclier. Elle est désarmée face à tout. Bien sûr, elle apprend, elle essaye. Elle sait qu'être sensible, c'est à la fois un don et une malédiction. Aujourd'hui, c'est un don. Louve sèche ses larmes, ferme chacune des trois enveloppes et se remet en marche. L'arbre est bientôt là, celui qui a tout accueilli, ses plus grandes joies et les peines inavouables. Elle voit sa silhouette majestueuse qui se déploie au loin. Elle a grandi, elle a sa vie à vivre. Elle pose ses mains sur l'arbre, ferme les yeux. Elle en serre le tronc de ses bras, lui chuchote. « Je pars, tu sais mon arbre, mais je ne t'oublie pas. » Et quand l'ouvre ouvre les yeux, on dirait que l'arbre a compris, qu'il lui sourit. Elle creuse à ses pieds et dépose la lettre dans la terre. Elle embrasse la lettre avant. Le trajet du retour est différent, une petite pique dans le cœur à l'idée de s'en aller et comme une grande page blanche avec tout à écrire. L'ouvre s'arrête à nouveau près de la rivière, guette l'oiseau bleu un moment, mais on dirait qu'il n'est plus là. Lorsqu'elle arrive près de sa maison, elle regarde une minute l'ombre de sa mère qui passe derrière les rideaux. Louve a grandi. C'est un autre jour qui l'attend, maintenant. C'était la lecture de « Le jour où j'ai grandi », un texte de Madeleine Roth, illustré par Lucille Micheli, publié à l'étagère du bas. On laisse décanter un peu, on écoute un peu de Catherine pour se remettre de tout ça, vous allez voir, c'est bien... Vous allez voir. On reste dans les bois, mais c'est un peu différent. Et puis on en reparle tout à l'heure.
Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Ils crièrent à l'injustice, ils crièrent à l'assassin, comme si c'était justice quand ils tuaient le lapin. Et puis devant la mitraille venue de tous les fourrés, abandonnant la bataille, les chasseurs se sont sauvés. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Bien sûr, ça n'est qu'une histoire inventée pour la chanson, mais chantons-leur cette histoire quand les chasseurs reviendront. Et s'ils se mettent en colère, appuyés sur leurs fusils, tout ce que nous pouvons faire, c'est de s'en moquer ainsi. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Ce matin, un lapin lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil.
Et ouais, c'était un lapin qui avait c'était un fusil. Désolé, parce qu'on est passé d'un grand moment de poésie à ça.
Mais ça reste dans la nature. Hein.
Voilà, hein. C'est un très bel hommage à Chantal Goya, oui. Quand même, de,
oui. Et
de
au lapin.
Philippe Catherine. Et au lapin, évidemment. Donc, pour revenir deux secondes hein, quand même, sur ce livre, Le jour où j'ai grandi, je vous invite vraiment à découvrir les illustrations de Lucille Micheli, qui sont absolument superbes. Vous l'avez entendu, le texte de Malin Roth est somptueux.
C'est pas la première fois. Hein.
Bah, Malin Roth, elle écrit plutôt des romans, normalement.
C'est une libraire, cette dame-là, oui, que vous connaissez bien, monsieur Simon.
C'est une libraire jeunesse, tout à fait, qui fait partie des librairies sorcières également, et notamment qui a écrit il y a deux ans Mon père des montagnes.
Oui, c'est ça.
Voilà, on sent que c'est quelque chose qui est un sujet qui lui tient à cœur. Et c'est vrai que cet album, c'est son premier album, hein, parce qu'elle avait publié que des romans. Oui. Mais je trouve qu'elle a une force d'écriture et une poésie, une tendresse dans son texte, absolument super. Et allez voir vraiment les illustrations de Lucille Micheli qui font que cet album est magnifique. Vous voulez, ça fait plusieurs émissions, nous parler d'un documentaire.
Parce qu'il est sorti en fin d'année, je l'avais vu dans votre vitrine, monsieur Simon.
Tout à fait.
Et il m'intriguait beaucoup. Après, c'est un très grand livre, très lourd. Enfin non, n'exagère rien quand même, enfin, il est lourd. Un livre bien conséquent, quoi. Terra Ultima, la découverte d'un continent inconnu de Raoul Deleo chez Réunion des musées nationaux. C'est difficile.
À la RMN. La Réunion des musées nationaux.
Voilà. J'allais continuer à lire, moi c'est n'importe quoi. Raoul Deleo, au départ, parce que je regardais, je me dis, si ça se trouve, c'est un faux lui aussi.
Non, c'est un vrai.
J'ai été voir, voilà. Donc c'est un vrai illustrateur qui c'est conçu par un vrai artiste et qui s'est inspiré de fausses recherches sur un continent inconnu.
Ah non, mais c'est complètement des vraies recherches, vous rigolez.
Ah mais pardon, des vraies recherches.
Noah Stern est un explorateur qui a couru le
Noah
monde.
Noah Stern, voilà.
Qui est un scientifique et qui a découvert un nouveau continent, mais qu'on ne connaît pas.
C'est ça.
Voilà.
Et
c'est vrai.
Et donc, apparemment, Raoul Deleo a hérité de malles où il y a plein d'archives, de dessins,
Noah Stern,
de planches absolument dingues. Et sur ce continent, c'est quand même impressionnant, on arrive sur ce continent et on voit un gorille, alors qui s'appelle le gorille morse, hein, entre le gorille et le morse, le gorille morse de Poséidon. Il en a. Parce que c'est plutôt Noah Stern qui arrive, oui, voilà. Les dents du morse lui font penser au trident de Poséidon. Et alors, c'est la première fois de sa vie qu'un animal l'ignore totalement avec. C'est une espèce de dieu comme ça qui arrive. L'illustration pleine page, une seule page, mais elle est magnifique. C'est absolument magnifique, c'est bouleversant. Donc voilà, c'est le premier animal mélangé, chimérique un peu, qui croise sur cette. Et il y en a d'autres. Il y a le coccinours, que si on. C'est mon préféré, le coccinours, parce que si on le caresse trop, en plus, on a une hypertrophie de la main. La main grossit énormément. Enfin, c'est pas pour ça que c'est mon préféré, mais c'est le coccinours.
Oui, on a envie le.
Voilà.
Ouais,
c'est
coccinelle avec une
il
peau
d'ours. Il a plusieurs points selon son âge. Tout ça comme la coccinelle.
Non, mais ce livre, il est magnifique. Ça,
le lapingouin. Il y a le lapingouin, les oreilles du lapin qui constituent un bec de pingouin, l'illusion d'optique et tout. Et il y a le bébé lapingouin dans son œuf.
Je les ai longuement parcouru parce que le travail de Noah Stern, ce scientifique que je rappelle, qui est vrai évidemment, qui est un vrai scientifique, qui a beaucoup étudié.
Okay. Voilà. Ça va aller.
Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Non, mais le travail de Raoul Deleo en tant qu'illustrateur est absolument génial. C'est-à-dire que c'est
incroyable.
C'est d'abord un dessinateur. Alors, il utilise un peu la forme classique
des
naturalistes, en fait.
Mais
il en fait, il les détourne tellement avec beaucoup de talent. Enfin, il faut absolument aller voir celui-là, c'est un très grand livre qui paraît en noir et blanc sur la couverture, puis en fait, quand on l'ouvre, il y a les couleurs aussi qui surgissent.
Alors, il faut franchir la barrière du texte du début, quand même. Il y a pas mal de textes au début.
C'est un livre que beaucoup de personnes feuillettent, en fait, pour le plaisir des yeux. Quoi.
Mais je pense qu'ils mettent à partir de 7 ans, mais avec des enfants, c'est extraordinaire. Le voyage qu'on fait est extraordinaire.
Oui, avec mes enfants, ça fonctionne très bien.
J'imagine.
Ils ont adoré. Voilà. Si on reste dans les documentaires un petit peu étonnants, alors moi j'ai plutôt choisi la partie drôle. Vous vous souvenez le mois dernier, on avait parlé d'un album un petit peu décalé qui nous présentait des faux animaux
qui existe peut-être
tout à fait. C'était le travail de Stéphane Nicolet. Et bien là j'ai trouvé le même principe mais sur les dinosaures, et ce livre s'appelle le Diplodocus. et autres dinosaures méconnus. Et il va enfin rendre visibles tous ces dinosaures qu'on connaît assez peu finalement. Alors le Diplodocus fait partie de ceux qui sont les plus connus, mais vous avez aussi...
Ça aussi, vous allez me dire que c'est très sérieux, c'est scientifique.
Bien sûr, vous avez le diaréodon. Hein, le diaréodon qui mangeait tout ce qu'il trouvait à sa disposition, même les proies qui avaient dépassé la date de péremption.
Ah bah oui.
D'où
hein,
le diaréodon.
On comprend mieux l'extinction.
Voilà. Le vomitosaurus qui était allergique à beaucoup de choses. Donc il suçait quelques feuilles comme ça de bananier d'un air préoccupé. Il y a le petit protosaure aussi, un trompettiste professionnel pour vous casser les oreilles. Un vrai glouton, il avalait la nourriture tout rond sans prendre le temps de mâcher. Du coup, il était souvent ballonné, d'où le petit protosaure.
Ah oui, d'accord, voilà. Protosaure.
Il y a le gros pétosaure, en fait,
son
pendant
niveaux,
plus grand, voilà, c'est ce qui devient grand.
Il rote, lui.
Le doukipudon. Le doukipudon. En fait, doukipudon, il ignore l'existence du dentifrice du savon, refuse tout simplement de se brosser les dents.
Là là.
Voilà. Le trophéniasus. Hein, le trophéniasus, il a la flemme en fait d'aller à la chasse lui-même. Alors, il demande aux autres d'y aller en fait pour lui.
D'accord.
Le trophéniasus, voilà. Le dodudicus. Le dodudicus, il a en fait un arrière-train assez volumineux, n'est-ce pas?
D'accord, comme son nom l'indique, quoi.
Le pousse-toi-lag, Mimex aussi.
Mais alors, ça veut dire que le dipoilocus, il en a vraiment 10.
Ah bah,
ah mais oui.
Il a dit
Diplodocus, incroyable.
Bien sûr, vous n'aviez pas regardé. Voilà.
Oh.
Donc je vous invite vraiment à découvrir ce travail scientifique et encore une fois de Lise Beninka qui a créé ces histoires et de Clémence Lallemand qui les a illustrés. Voilà, si vous avez bien aimé, c'est publié.
Et après, les bibliothécaires sont bien embêtés avec ce genre
chez
de livre.
Et oui, mettez-les en documentaire, c'est très intéressant. Vous vouliez nous parler très vite en fait d'un livre plus ancien, qui est un livre qui est très très beau, qui s'appelle Je me souviens.
Oui, je veux vous parler de ce livre, il est paru en 2020. Ça me paraît essentiel de partager tant est grande la simplicité et la lisibilité de son propos. Ça s'appelle « Je me souviens », c'est de Gilles Rapaport, que je suis depuis un moment quand même, chez Gallimard. Et son texte nous parle de ce pays, la France, qui malgré toutes ses dérives et ses imperfections, reste un des pays les plus libres au monde. Gilles Rapaport témoigne de l'histoire de sa famille immigrée en France avant la guerre et des droits et de l'aide dont ils ont bénéficié. Nous retrouvons cet auteur-illustrateur avec bonheur dans sa quête de mémoire, il a souvent fait cette quête en témoignage de sa famille aussi, et dans son combat pour changer les poissons rouges en lecteurs éclairés. C'est vraiment, je me rappelle, jamais oublié. Hein, donc ça, je me souviens d'un pays qui a laissé rentrer ma grand-mère et mon grand-père. Il ne les a pas accueillis à bras ouverts, mais il a ouvert sa porte. Je me souviens que mon père est né dans ce pays. Je me souviens qu'on lui a donné des papiers juste parce qu'il était né. Je me souviens de tous ceux qui savaient que ma grand-mère était chez elle, cachée, et qu'ils ne l'ont jamais dénoncée. C'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est évidemment, il se souvient des bonnes choses, des choses positives. Et je trouve ça important de les dire aussi. Je me souviens qu'il lui donnait du travail, ses voisins, de quoi se nourrir et envoyer de l'argent pour ses enfants. Je me souviens de tous ceux qui n'ont pas eu de cette chance. Donc voilà, et il égrène toutes les... Ça me rappelle... je ne sais pas pourquoi ça me fait penser ça. Il n'y a pas si longtemps de Thierry Le Nain, cet ouvrage, alors qui montrait des choses à l'inverse terribles il y a 50 ans, ce qui se passait, que ce soit la peine de mort au niveau des droits des femmes inexistants.
La France a été un pays d'accueil, c'est comme
voilà,
ça qu'elle s'est créée.
Voilà, tout à fait. Et je trouve ces petits livres, c'est un petit album.
Vous avez sorti ce livre-là maintenant tout de suite?
Je ne sais pas.
Ah oui, d'accord.
Je ne sais pas, je me suis dit...
Bon, souvenons-nous alors.
Ça peut servir.
Voilà. C'est un album que Gilles Rapaport a publié il y a quelques années déjà.
2020.
Oui, 2020, d'accord.
2020, ouais.
Oui. Qui est tout à fait d'actualité, encore pour de nombreuses années, évidemment.
Il faut pas le lâcher.
Le temps passe, Véro, nous sommes en retard. Nous n'avons pas parlé de roman. Alors, vous voulez peut-être nous présenter une petite première lecture?
Une petite première lecture que je le retrouve. Bref, si je le retrouve pas, il s'appelle « T'es qui ? Kimchi » de Bruno Gibert. Bruno Gibert qui a dit dans 45 vérités sur les chats lisent avec leurs fesses, on voit un chat assis sur son livre. Et moi, pour moi, je suis devenue...
Il a tout dit.
Voilà.
Bruno Gibert qu'on connaît plutôt en tant qu'auteur d'albums.
Oui, et d'illustrateur aussi. Donc c'est à l'école des loisirs, chez Mouche. Et là, il s'agit de cette Kimchi, c'est une espèce de boule bleue avec deux yeux, un nez, une bouche, deux pattes, un chapeau. J'ai l'impression d'avoir un représentant sautillant et irrésistible du style de Bruno Gibert. Peut-être la réincarnation de l'auteur lui-même. Donc Kimchi arrive dans la vie du narrateur un jour, de qui, de quoi, d'où, de quand, le narrateur lui-même n'en sait rien. Mais sous des aspects très forts d'amis imaginaires, il va enchanter son quotidien à tel point qu'on le considère
un peu plus qu'un ami imaginaire à la fin du livre. Donc l'histoire est truffée de réflexions de premier abord absurdes et qui ouvrent pourtant un champ de possibles incroyables. Et le tout agrémenté de poésie légère comme un souffle de printemps. Voilà.
Super.
J'avais un extrait, mais on n'a pas le temps. Bah, allez les lire. Allez les lire.
Non, il faut aller les lire, effectivement. Moi, juste rapidement, je vous parle juste d'un roman jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça s'appelle La Clé des Champs d'Audrey Follot. C'est publié chez Gallimard. Évidemment, c'est chez Gallimard puisque c'est le concours Gallimard.
Allez.
En fait, c'est celle qui a gagné cette année le concours qui est co-organisé par Gallimard Jeunesse, Télérama, RTL, sur un premier roman publié. Et on sait qu'il y a un nombre inconsidérable de manuscrits, je me demande si c'est pas presque un millier de manuscrits qui est envoyé pour ce prix-là. Pour souvenir, les premiers vainqueurs, c'était Christelle Dabos avec La Passe Miroir.
Oui, c'est ça, je me souviens. Avec
c'était Lucie Pierre Apajou avec Les Mystères de Larry Spem. Voilà, donc tous les deux ou trois ans, je crois.
J'ai pas bien écouté, je sais pas bien, mais c'est un premier
texte. Ouais. Ah oui, c'est des auteurs qui n'ont jamais publié. Okay. Et cette fois-ci, c'est Audrey Follot avec La Clé des Champs, et franchement, c'est un vrai beau coup de cœur. On va suivre une famille de voleurs professionnels. Mmh. Ils sont tous voleurs de père en fils depuis des années. Et puis la petite dernière, Robin Larsin, elle a 13 ans, mais franchement, elle est pas douée. Hein. C'est un peu compliqué pour elle. Bah, ouais. Oui.
Ah,
et du coup, toute sa famille va l'envoyer en fait dans une espèce d'école de formation des brigands pour qu'elle reprenne en fait le goût du vol, voilà, c'est ouais. Ça évidemment ça va pas du tout se passer comme elle imaginait et comme ses parents l'imaginent. C'est un roman qui est très frais, qui est plein de fantaisie. Il m'a fait penser un peu l'univers de Roald Dahl, dans l'univers, même dans un peu dans l'écriture, et puis il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, il y a de l'humour, enfin voilà, c'était vraiment un très très beau livre à découvrir. On va finir avec les romans ados et la bande dessinée. Les romans ados, je voulais juste revenir très rapidement sur le livre de Guillaume Nail. Donc c'est le livre que j'ai lu un petit peu en introduction, qui s'appelle Ton absence. C'est un très 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 beau livre. Je vous conseille vraiment ce livre. D'ailleurs, on va écouter un petit peu Guillaume Nail nous parler de ce qu'il a voulu dire dans ce roman.
C'est une histoire d'amour. Qu'est-ce que ressent l'autre? Qu'est-ce qu'on ressent soi? Est-ce qu'on a bon? Est-ce que on a bien reçu les signaux? Voilà.
C'est...
À la base, j'avais une envie, j'avais une image. Une image, l'arrivée de l'autre, sur lequel on va projeter tout ce sentiment amoureux. Et j'avais envie de refaire un film à l'envers. De me dire, c'est quoi les images qu'on a perçues? C'est quoi ce qu'on a entendu? C'est quoi ce qu'on a vu? Et finalement, est-ce qu'on s'est planté? Donc, je savais pas où j'allais aller. Je savais juste que je voulais fonctionner par image, et en fait c'est le roman qui m'a nourri, qui m'a emmené ailleurs au fur et à mesure que mon héros s'interrogeait sur ces images qu'il essayait de se remémorer.
Alors cette histoire d'amour, on ne sait pas trop qui elle met en jeu, mais en fait elle va mettre en jeu deux garçons qui, lors d'un stage de préparation en fait au BAFA, y a un regard qui va s'échanger entre eux, et puis notre narrateur qui n'est pas du tout sûr de ses sentiments, qui n'est pas sûr non plus de vers qui il est attiré, va voir ce garçon qui est un peu resplendissant, et sa vie va changer. Et sa vie va changer, son amour grandit pour ce jeune homme rayonnant, vraiment magnifique. C'est la scène dont que j'ai lue notamment au début, quand il le voit.
Magnifique.
Voilà. Et par contre, lui n'a pas encore fait tout le travail sur son nouvel amour. Et ses doutes vont être très très forts, et notamment face au regard des autres. Et c'est tout le regard des autres qui est important dans ce roman, puisque ce garçon ne saura pas exprimer en fait tout son amour pour cet autre garçon à cause du regard des autres, et c'est vraiment très subtil. Alors c'est un roman qui demande déjà une certaine maturité pour comprendre déjà ce processus-là, mais c'est un très très beau roman sur l'amour en général et sur son engagement surtout. Et le deuxième son que je voulais vous faire écouter de Guillaume Nail, c'est quand il répond à cette question sur l'engagement. Est-ce que c'est engagé d'écrire en 2022 sur l'homosexualité, que mettre en scène deux personnages comme ça? Sa réponse, qui est plutôt très chouette, était vraiment intéressante.
Je trouve ça dingue que ce soit une question de savoir que c'est une histoire d'amour entre deux garçons. C'est-à-dire qu'on est en 2022 et c'est... Ah bon ? Après, moi, j'avais envie de parler de cette histoire d'amour. Je me suis autorisé à le faire. En fait, le problème qu'il peut avoir, c'est comment la société va l'enfermer dans une case, une catégorie, quelque chose. C'est juste deux personnes amoureuses. La spécificité, c'est que justement, le regard de la société, le regard que les autres vont avoir, ou ce que chaque personnage va ressentir du regard de jugement, d'accusation, ou de non-droit à la banalité, à l'indifférence, donne sa spécificité à ce récit, mais c'est les autres qui le font. Les deux héros, eux, en fait, ils auraient juste envie de vivre ce qu'ils ont à vivre.
Voilà, c'est un roman vraiment que je vous conseille à partir de 13-14 ans. Ton absence, de Guillaume Nail, c'est le nouveau livre de Guillaume Nail qui avait déjà écrit le magnifique Tracé aux éditions du Rouergue. Il continue à tracer son chemin. Et bien voilà, vous savez quoi ? Mauvaise nouvelle, on est déjà à la fin de l'émission. Le temps est passé super vite. On a juste le temps de vous présenter une petite BD, un petit plaisir, effectivement. Comme BD du mois, j'ai choisi le Gaston Grognon. Gaston Grognon me dit, mais c'est pas une BD, c'est un album.
Mais c'est ça, oui.
Bah oui, c'est un album. Mais il existe aussi en bande dessinée. Effectivement, les deux auteurs, Suzanne Lang et Max Lang, ont créé une petite bande dessinée avec le personnage de Gaston. Alors, je vous rassure, Gaston, il est toujours aussi grognon.
Ah, oui,
il est toujours. Alors, il est stressé. Et en fait, quand il est stressé, vous savez ce qu'il fait ? Il prend une orange et puis il la malaxe comme ça. Sauf qu'un jour, la orange, clatch ! Elle éclate.
Ouais.
Tellement qu'il est stressé.
Ouais.
Et bah, du coup, il devient grognon.
Ah bah oui.
Et il va devoir aller chercher une nouvelle orange.
Une
et c'est
orange.
Cette aventure qu'on va suivre dans cette bande dessinée. Il a une vie incroyable.
Ouais.
C'est à mourir de rire. On retrouve tout l'humour des premiers Gastons. Je trouve que les derniers qui sont parus voilà, étaient pas mal, mais. Voilà, moi je préfère vraiment les deux premiers, et là je trouve qu'on retrouve ça dans cette bande dessinée-là. Donc si vous voulez rigoler un petit peu avec vos enfants, initiez aussi vos enfants à la bande dessinée à partir de 5-6 ans. Ce Gaston Grognon Orange Stressé de Suzanne et Max Lang chez Casterman, je vous le conseille. Bon, voilà, hein. C'est bon, c'est fini. On va quand même se quitter en musique.
Ah bah oui, avec Philippe Catherine, ça va aller.
Avec Philippe Catherine, effectivement. Encore une petite surprise. Vous vous souvenez qu'il y a à peu près 20 ans, il y avait cette mode des boys bands.
Ah oui, je m'en souviens.
Ouais. Notamment, il y avait un boys band qui s'appelait les To Be Free. Et ils ont fait une chanson absolument magnifique qui reste dans toutes les têtes. Et c'est pour ça qu'on va vous laisser là-dessus, pour que vous l'ayez toute la journée.
C'est ça.
Ce magnifique Partir un jour. Sauf que, revisité par Catherine.
Je vous rappelle qu'il est 19h, monsieur Simon.
Voilà. Ben oui, mais c'est la soirée, la journée,
la
tout
nuit,
est. Voilà.
Eh
bien, je vous conseille d'écouter ce morceau puis de le garder toute la nuit. En tout cas, nous, on va partir. On va partir un jour. Et on
sans
va partir
retour.
Tout de suite.
Monsieur reviendra.
Allez, on se dit au mois prochain. Merci Philippe. C'était Philippe Ausson. Véro.
Véro au micro.
Véro
non,
au
c'est
micro.
Pas ça.
Ah, si, ça
au
s'arrête.
Au revoir, monsieur Simon.
Allez, à bientôt.
Partir un jour. Sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour, sans bagage, oublier ton image, sans se retourner, ne pas regretter. Penser à demain recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé. Tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain. Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image, sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne, pour un rêve qui nous étonne. Pour le goût retrouvé, liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu, penser à rien, rêver un peu, partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image, le sens.